Jerry Reese.
Ça n'a pas été une année facile pour les consommateurs en 2017. Ils ont eu de nombreuses raisons de se plaindre. La chroniqueuse de La Presse, Stéphanie Gramont, publie son palmarès annuel des pires pépins des consommateurs. Ça se pourrait qu'on se retrouve, qu'on se reconnaisse à quelques reprises. On la joint à l'instant. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Eve-Marie.
C'est un exercice qui soit nous fait rager ou en même temps ça sert de soupape quand on lit cette liste-là que tu publies et ces textes-là aussi que tu publies. De quoi est-ce que tu t'inspires pour bâtir ton palmarès?
Ben, je vérifie pour commencer les statistiques de l'Office de la protection du consommateur qui reçoivent des dizaines de milliers de plaintes par année. Je regarde aussi ce qui s'est passé du côté du bureau de la concurrence, de la commission des plaintes relatives aux télécoms. Je regarde un petit peu partout et aussi je m'inspire de ce que les consommateurs, les lecteurs de La Presse m'écrivent parce que j'ai la chance d'avoir énormément de rétroactions de la part des lecteurs et donc tout ça. D'histoires qui arrivent dans mon ordinateur. Et puis évidemment, mais il y a des trucs qui ont fait les manchettes là, qu'on peut pas passer sous silence. Donc tout ça entre dans la machine et puis ça fait un palmarès annuel qui est toujours assez intéressant.
Ouais, manchette quand même assez récente, il nous vient en tête tout de suite la faillite de Sears. Disons que ça a fait réagir plusieurs consommateurs parce qu'entre autres, il y avait la question des garanties prolongées. Ça, c'est sûr qu'il faut que tu en parles dans ton palmarès, hein?
Oui. C'était le numéro un, je dois dire. Et donc, Sears, c'est un habitué du palmarès là, des plaintes de l'OPC, de l'Office de la protection. Et disons qu'ils vont disparaître. Les consommateurs seront pas nécessairement malheureux. C'est sûr qu'on plaint les employés là, qui perdent leur emploi. Mais non, effectivement, pour les consommateurs, c'est assez enrageant parce que ils ont vendu des garanties prolongées jusqu'à la dernière seconde. Et évidemment, la plupart des consommateurs vont se retrouver le bec à l'eau parce qu'ils ne pourront pas obtenir de réparation si jamais le produit brise parce qu'il n'y a plus d'entreprise. Donc,
exact.
Et même dans le cas des produits Kenmore, qui est la marque maison de Sears, ben là, c'est encore pire parce que les consommateurs peuvent même pas se retourner vers le fabricant parce que le fabricant, mais encore là, c'est Sears. Quoique certains disent, bon, ben quand ça a été le produit a été fabriqué par un sous-traitant, peut-être qu'il y aura moyen de cogner à la porte du sous-traitant en question. Mais disons que ça sera pas gagné d'avance. Et l'autre chose qui est assez enrageante, c'est que juste avant de débuter leur vente de liquidation, il y a des consommateurs qui se sont plaints que Sears aurait gonflé les prix habituels. Donc ça donne l'impression que les rabais sont plus alléchants qu'ils le sont
réalité.
Et il y a eu des plaintes comme ça au bureau de la concurrence qui est en train de faire enquête là-dessus. Puis il faut dire que c'est pas la première fois que Sears se trouve mêlé dans ce genre d'histoire-là. Il y a déjà plusieurs années, ils avaient été obligés de payer des amendes assez salées parce qu'ils avaient fait de faux rabais comme ça sur des pneus. Donc, on le sait, là, il y a quand même beaucoup de commerces qui annoncent comme ça des produits qui sont en vente à 60 ou à 70% de rabais, puis c'est comme ça toute l'année. Donc, on le sait que c'est pas des vrais rabais et ça, c'est une pratique qui est interdite. Donc, Sears aurait encore été joué dans ce film-là.
Ouais, les fameuses ventes de liquidation. Mais je fais une parenthèse, Stéphanie. S'il y a une enquête, mais Sears est en faillite, la conclusion, ça va être quoi? Ils n'auront pas de sous pour dédommager?
Non, malheureusement. Non, hein? Ça, c'est la même chose pour les gens qui ont des garanties prolongées. Techniquement, là, ils pourraient s'inscrire auprès du syndic, puis si jamais il reste des miettes d'actifs à la fin du processus de liquidation, ils auraient peut-être droit à un certain prorata, mais honnêtement, ça va être des poussières qui risquent de rester pour eux.
C'est jamais simple pour des consommateurs quand il y a faillite. Là. Entre autres, on l'a appris cette année dans certains sites touristiques, des mariages qui sont annulés, etc. On pense à l'histoire de l'auberge Prima Shanti dans les Laurentides.
Ben oui, ça c'est assez épouvantable comme faillite. Les gens qui avaient réservé des mariages, il y avait une cinquantaine de mariages qui étaient prévus dans cette auberge-là. Et ben évidemment, il y avait des acomptes qui avaient été versés dans certains cas. C'était des milliers de dollars. Et l'auberge en question a annulé tout ça parce que, bon, ils fermaient leurs portes, mais dans certains cas, ils ont annoncé 48 heures à l'avance par texto. Donc, les mariés se sont retrouvés vraiment, vraiment mal pris.
C'est quasiment baveux même d'apprendre ça par texto. Il n'y a aucune délicatesse.
Non, pas vraiment, on peut pas dire. Et puis ben là, c'est la croix et la bannière pour retrouver le dépôt. Mais je dois dire quand même que dans certains cas de faillite, il y a moyen d'avoir accès à une caution où parfois les dépôts ont été mis en garantie. Donc, ça vaut la peine dans ce temps-là d'appeler à l'Office de la protection du consommateur. Et là, cette année, il y a des gens, il y a une trentaine de personnes qui vont récupérer environ 50 000 $, des gens qui avaient laissé un acompte. Mm-hmm. Peut-être que on se souvient, là, les gens vont peut-être se souvenir de Philippe Dagenais, un magasin de meubles qui a fait faillite, mais c'était en 2016. Sauf que là, les gens qui avaient déposé une demande à l'office vont recevoir là, sous peu, peut-être dans les prochains jours, un chèque avec des montants là, de plusieurs milliers de dollars. Donc, dans ce cas-ci, c'est une histoire qui finit bien.
Ouais, mais est-ce que c'est plus rare que d'habitude? Est-ce que c'est pas un cas qui fait l'espèce, là?
Ben, ça dépend des commerçants. Ouais. Les règles sont différentes. Ça dépend du nombre de jours avant la livraison prévue. Donc, je pense quand il y a quand la livraison est prévue après un mois ou deux de mémoire, à ce moment-là, les acomptes normalement doivent être gardés soit en fiducie ou soit il y a un mécanisme là, de protection. Donc, c'est dans ces situations-là. Mais c'est vrai que en général, c'est mieux de pas laisser des acomptes énormes. C'est mieux de pas acheter des parfois on a des cartes cadeaux ou des trucs c'est de l'argent en banque là, mm-hmm. dans le fond qu'on ben oui. laisse traîner. Alors c'est pas souhaitable là. Quand on a ce genre de situation là, vaut mieux utiliser l'argent le plus vite possible, vaut mieux laisser le dépôt le plus léger possible mm-hmm. pour éviter de se retrouver pris là si jamais l'entreprise ferme ses portes.
Toujours dans le palmarès des pépins des consommateurs, il y en a qui se plaignent des pratiques de facturation, entre autres chez Bell.
Oui, Bell, un autre habitué.
Ah oui?
Oui, c'est un nom qui est très souvent associé au mot plainte. Dans les télécommunications, c'est le champion incontesté. Cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'en février dernier, ils ont augmenté leur tarification. Donc, plein de clients se sont retrouvés avec des factures surprises qui étaient plus élevées que prévues. Et souvent, ce qu'on réalise, c'est que les gens signent un contrat, ils s'engagent, ils pensent qu'ils ont un rabais pour 24 mois ou pour 12 mois. Puis là, ils s'attendent à avoir le même prix pendant toute la durée de cet engagement-là. Mais ouais. Ils réalisent par la suite que c'est le rabais qui est garanti, c'est pas le tarif. Donc là, les gens sont un peu estomaqués de voir que leur facture a grimpé. Puis on leur dit « Oui, votre rabais, il est encore là, mais on a monté le prix de base. »
Puis tout ça est permis, hein?
Ben, c'est sûr que c'est marqué en quelque part, ouais. Oui, d'accord, mais c'est pas l'impression que ça donne aux gens. C'est tellement complexe quand on appelle et qu'on essaie de magasiner des services de télécom que quand on pense qu'on a fait nos devoirs pour un an ou deux, puis qu'on va être tranquille, puis que deux mois après, on se retrouve finalement à devoir recommencer l'exercice, c'est pas tellement sympathique.
C'est un travail à temps plein pour le consommateur d'avoir de bons oui. prix pour un service pratiquement de base. Il faut toujours, toujours être aux aguets et puis se méfier aussi de ce qu'on nous présente. C'est un peu ça que tu nous racontes à chaque fois.
Oui, ben c'est sûr. Magasiner, c'est des classiques.
Oui.
Et puis lire les petits caractères, etc. Mais je dois dire que dans certains cas, comme dans les télécoms, on dirait qu'ils font exprès pour que ça soit le plus compliqué possible, pour que les consommateurs soient pas capables de comparer d'un fournisseur à l'autre, pour que au lieu d'avoir un prix fixe, bon ben là, il y a un rabais pour un mois, pour trois mois ou pour six mois. Ensuite de ça, ça change de prix et ça monte. Donc, c'est tout ça fait en sorte qu'on vient plus à bout là de faire un magasinage vraiment averti.
Oui, puis on se courage, puis à un moment donné, on dit « Ah, puis laissez donc faire, je vais le prendre, puis c'est tout. Hein. » C'est un peu aussi là-dessus qu'ils sont comptables.
Je pense qu'ils comptent là-dessus, effectivement.
Il y a le domaine de l'aviation aussi qui a connu des, tu vas me permettre le jeu de mots, mais des turbulences.
Oui, ça a été une année faste pour l'aviation au chapitre des plaintes là, des consommateurs. Je pense que tout le monde va se souvenir là du fameux passager là, qui a été expulsé sauvagement par United Airlines parce qu'il y avait un problème de sur-réservation. Évidemment, c'est des méthodes là qui sont toujours en rapport agence, là, quand on apprend que le vol a été surbooké, c'est jamais trop amusant là, d'être obligé de descendre de l'appareil. Après ça, il y a eu toute l'histoire de Air Transat avec les appareils qui sont restés cloués sur le tarmac pendant plus de 5 heures. D'ailleurs, Air Transat la semaine dernière là, a été pointé du doigt, là, a été reconnu comme fautive dans cette histoire-là. Et donc, les gens ont été obligés d'appeler 911 là, pour qu'on vienne les sortir de l'appareil. Fait que c'est assez extrême comme situation, si je peux dire. Et puis ensuite de ça, il y a eu toute la question des ouragans cet automne là, qui a donné du fil à retordre à un paquet de passagers qui ont dû être rapatriés. Et tout ça a un peu démontré les lacunes dans la protection des voyageurs. Mais si je peux dire, il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'il y a une charte des voyageurs qui est en cours. Donc, Ottawa travaille là-dessus, puis on va avoir hâte de voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner comme droit additionnel aux gens qui voyagent.
Ouais. Parle-moi des produits de beauté. C'est quoi l'arnaque? C'est quoi le problème? C'est quoi les...
Oui. Ben ça c'est disons que on est sur internet, on se promène, on est sur Facebook, on est sur Google, puis là pouf, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et puis on nous annonce un produit de beauté, c'est souvent un échantillon. Alors on nous dit que ça va être gratuit ou à peu près qu'on a seulement qu'à payer les frais de livraison. Donc on donne notre numéro de carte de crédit, puis là on attend l'échantillon et on se retrouve quand on regarde notre état de compte sur notre carte de crédit à se faire facturer pour un service, un abonnement, si on veut, à ce produit-là. Mm-hmm. C'était pas ce qu'on avait cru, mais souvent les sites, la façon dont c'est fait, ils nous font cocher une petite case, puis on réalise que finalement, on s'est engagé dans un contrat qui coûte des fois des centaines de dollars par mois.
Et là, l'entourloupette, c'est qu'il faut se désabonner, il faut nous-mêmes faire la démarche pour dire non, c'est pas ça que je voulais.
Non, ben c'est ça. Puis souvent les gens s'en rendent compte seulement quand ils ont leur relevé de carte de crédit. Puis des fois il y a 2 ou 3 mois qui ont déjà été facturés. Puis c'est difficile de se faire rétro-facturer parce que c'est possible là de demander à l'émetteur de sa carte de crédit de dire bon, écoutez, moi c'était pas ce que j'avais convenu. Quand on fait un achat sur internet et qu'on reçoit pas le produit ou qu'on a quelque chose qui est différent de ce qu'on avait convenu. On demande à la carte de crédit de rétrofacturer, sauf que là, il y a toutes sortes de délais à respecter et des fois, ça faisait en sorte que les gens qui étaient tombés dans ce piège-là avaient de la misère à retrouver leur argent. Mais encore là, bonne nouvelle, la loi sur la protection du consommateur vient tout juste d'être modifiée et ça va justement faire en sorte que les consommateurs vont avoir plus de facilité, les délais vont être plus longs pour essayer de récupérer leur argent là, avec cette fameuse arnaque-là des produits de beauté.
Ouais, toujours dans le palmarès des pépins des consommateurs, on retrouve les vendeurs itinérants.
Oui.
Ils ont fait des ravages en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, ça a été vraiment, on l'a ressenti beaucoup en Beauce. Donc, c'est un phénomène là, qui date pas d'hier. Les vendeurs itinérants, ils sonnent à votre porte, ils vous mettent beaucoup, beaucoup de pression pour souvent une thermopompe.
Ouais. Avant, c'était les balayeuses.
Ouais, c'est ça, mais les aspirateurs, ça coûtait quand même moins cher, mais là, une thermopompe, là, puis souvent, ça coûte, ils vendent ça un prix, là, c'est 2 ou 3 fois ce que ça devrait coûter, là, fait qu'il y a du monde qui se retrouve avec des 10 000 $ là, ça n'a aucun bon sens. C'est pas mal plus cher qu'une balayeuse.
Je comprends.
Et puis, il y en a d'autres aussi, là, qui disent, bon, votre entretoit est plein de moisissures. Ben, là, évidemment, le propriétaire est peut-être pas capable d'aller vérifier lui-même, là, il commence à avoir peur pour sa santé, puis il dit, bon, ben, on va faire des travaux, on va tout réisoler. Alors, il joue beaucoup sur la peur dans ce cas-là. Et ben malheureusement, les gens s'embarquent là-dedans et la personne est rendue dans leur salon. Ils sont pas capables nécessairement de dire non. C'est pas tout le monde qui est capable là, de résister à ces vendeurs-là. Et normalement, on a 10 jours pour revenir en arrière, pour déchirer le contrat. Mais le problème, c'est que souvent, les vendeurs itinérants, le sachant qu'on peut annuler, ils se dépêchent de venir faire les travaux dès le lendemain.
Alors là, c'est comme ça, c'est rare, ça.
Mais c'est ça.
C'est ça. Là, on devrait se questionner.
Ouais. Donc, il faut être bien prudent avec ces vendeurs-là.
Alors, il y a des détaillants aussi d'électro qui figurent dans le top 10 des commerçants qui suscitent le plus de plaintes. C'est tellement important des électroménagers dans notre utilisation à tous les jours. Quand ça brise, on est dépourvu, on veut que ça soit réparé rapidement. Moi, ça se fait que ça brise, c'est au prix qu'on paye ces affaires-là.
Oh mon Dieu, je sais pas. Moi-même, j'ai eu des ennuis avec toutes sortes d'électro chez moi. On s'en sort pas. Même quand on pense qu'on a acheté de la qualité, ça veut pas dire qu'on est à l'abri. Non, c'est vraiment un problème récurrent. À chaque année, c'est les plus gros vendeurs là dans le palmarès des plaintes de l'Office de la protection. Donc, juste pour dire, là, The Brick, Bowie Martineau, Whirlpool, Samsung, qui sont des fabricants, eux. Donc, on les retrouve tous dans le palmarès. Et le sujet de plainte le plus fréquent, là, c'est la garantie. Donc, les gens ont de la difficulté à faire appliquer la garantie légale. Alors, c'est qu'on ne le sait pas tout le monde, là, mais outre la garantie du manufacturier, là, souvent ça va être un an, par exemple, il y a une garantie légale au Québec qui est enchâssée dans la loi. Donc, tous les produits sont couverts par cette garantie-là qui dit que un produit doit pouvoir servir à un usage normal pour une durée raisonnable. Bon, là, c'est sûr que c'est flou, puis c'est de là toute la difficulté de faire appliquer cette fameuse garantie-là. Mais on s'entend là, qu'un lave-vaisselle là, qui brise après un an et deux mois...
Mais même deux ans et demi.
Puis évidemment, ça dépend toujours du prix qu'on paie. Mais la seule façon de faire honorer la garantie, ça finit par être d'aller devant le tribunal, d'aller aux petites créances. Puis là, ben les détaillants, eux autres, ils se disent bien que ça nous tentera pas. Alors, j'imagine des fois, ils peuvent être tentés de laisser poireauter le client en disant bon, ben de toute façon, il n'y aura pas le goût d'aller en cours. Mais par contre, il y a une nouvelle plateforme qui a été mise en ligne par l'Office de la protection du consommateur. Ça s'appelle la plateforme Parle. Et ça, c'est de la médiation. Donc, ça, tout se fait sur Internet. C'est gratuit. C'est rapide. Ils ont lancé ça il y a à peine un an. Et il y a plusieurs commerçants maintenant qui participent, dont certains que je vous ai nommés, là, justement. Et donc, on s'inscrit là-dessus. Et on commence par essayer de négocier avec le commerçant. Si ça marche pas, il y a un médiateur qui intervient. Et franchement, ça fonctionne. Ils ont réglé à peu près le deux tiers des plaintes.
Ah, intéressant.
Depuis l'entrée. Oui, puis les gens, là, ils font des sondages. 90% du monde sont contents. Alors, c'est quand même un bel espoir, parce que si on peut désengorger les tribunaux puis régler les problèmes plus vite, on s'en plaindra certainement pas.
Je vais répéter le nom de la plateforme, parce que c'est le genre d'informations qu'on va nous demander là aujourd'hui. Plateforme Parle de l'Office de la protection du consommateur. Vous trouverez facilement. Et puisqu'on parle de ce qui se passe en ligne, si justement je te parle d'un site web qui s'appelle Patient en ligne, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus?
Ben ça, c'est ma petite recrue de l'année dans le palmarès, parce qu'il y a des noms qui reviennent d'une année à l'autre parce que c'est des gros, gros commerçants. Donc, juste parce qu'ils ont beaucoup de clients, on sait qu'ils vont... Ils vont forcément être parmi ceux qui reçoivent le plus de plaintes. Mais quand on voit un nom comme ça qui apparaît, Patient en ligne, on se dit, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Et puis, en fait, c'est un service qui avait l'air quand même assez intéressant. Ça permet, quand on arrive à la clinique puis que le médecin, bon, n'est pas libre instantanément, on peut recevoir une alerte, un texto. Et puis, ça nous permet d'aller vaquer à d'autres occupations, évidemment, si on n'est pas trop malade.
Ouais.
Au lieu d'attendre dans la salle d'attente du médecin.
Bon, mais ça a l'air prometteur, ça?
Ben, ça avait l'air prometteur. Le problème, c'est que les gens se sont retrouvés abonnés à un genre d'abonnement mensuel, alors qu'ils pensaient qu'ils payaient pour une simple utilisation, là, un paiement unique. Alors là, les gens ont vu ça revenir de mois en mois sur leur carte de crédit et ils essayaient d'appeler, d'annuler. C'était difficile, c'était compliqué. Je pense par contre qu'il y a eu peut-être une petite méprise. C'est un nouveau service et que là, ça va peut-être s'améliorer. Mm-hmm. Mais disons que ça a soulevé quand même beaucoup de plaintes là, cette année.
OK. Il faut absolument terminer notre discussion sur les bonnes nouvelles. J'aille ça terminer ça avec quelque chose de négatif. Alors, il y a quand même des choses qui ont avancé ou qui ont changé. D'abord, Ottawa qui a abandonné son projet de réforme, qui aurait mis les banques à l'abri des recours collectifs.
Ah oui, c'est effrayant. Ça, c'est l'année dernière. On en a parlé beaucoup. Moi, j'avais dénoncé ça. C'était un projet de loi qui était passé presque inaperçu. Et finalement, toutes sortes de monde au Québec se sont mobilisés. Les sénateurs du Québec à Ottawa en ont fait leur cheval de bataille. Puis le ministre des Finances, Bill Morneau, a finalement fait marche arrière. Donc, c'est une très bonne nouvelle parce que ça aurait écrasé finalement tous les droits des consommateurs qui existent déjà dans les lois provinciales et ça aurait empêché les consommateurs de faire des recours collectifs contre les banques. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup, puis souvent, c'est des moyens de pression importants pour faire valoir et pour faire changer des pratiques commerciales qui sont un peu déloyales.
OK. Il y a la loi sur la protection du consommateur qui va être changée, modernisée. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ça?
Ah, il y a plein de choses. Je parlais des petits pots de crème, là, des échantillons sur Internet. Donc, ouais. Ça, c'est un tout petit détail, mais pour dire un seul élément là qui, moi, me tient à cœur vraiment, c'est que il va y avoir un resserrement des règles pour tous les gens qui travaillent dans le crédit bas de gamme, là, si je peux dire. C'est un peu les vautours de la détresse financière. Des gens qui font croire là, qu'ils vont améliorer votre situation financière, qui vont réduire vos dettes, qui vont
vous aider à acheter une voiture, même si vous n'avez pas un bon dossier.
Les deuxièmes chances au crédit, les taux d'intérêt à 200%, les Shylock, tout cet univers-là du crédit exorbitant, c'est les gens les plus vulnérables hein, qui sont victimes de ça. Et là, il va y avoir vraiment un bon tour de vis qui va être donné. Fait que j'espère que ça va permettre là, d'assainir l'industrie parce que vraiment, c'est pas en payant 200% d'intérêt qu'on s'en sort.
Toi, t'as applaudi quand t'as vu que les pharmaciens seraient plus transparents sur leurs honoraires?
Oui, je pense pas que ça va nécessairement régler tous les problèmes, mais je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ça va probablement sensibiliser les patients un petit peu aux différences, aux écarts de prix qui existent. Hein. Les médicaments, les gens s'imaginent, certains s'imaginent que c'est réglementé, que c'est tout le même prix, mais il peut y avoir des différences importantes, voire du simple au double d'un établissement à l'autre, puis c'est essentiellement en raison des honoraires des pharmaciens. Donc, en le voyant sur la facture, bien, peut-être que les gens vont se poser un peu plus de questions. Puis c'est important parce que même si on est assuré, même si on est remboursé, bien, à la fin, là, les primes montent quand on paie nos médicaments plus chers. Donc, c'est pas vrai qu'on se dit, bon, ben, c'est pas grave. Mm-hmm. De toute façon, si ça me coûte cher, c'est pas moi qui le paye. Oui, on finit par le payer, mais indirectement. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil là-dessus.
Une autre chose, c'est que les téléphones cellulaires peuvent être déverrouillés. Hein, ça a commencé la semaine dernière. Puis ça, ben plusieurs l'attendaient depuis longtemps. Déverrouillés gratuitement, là.
Oui, non, vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il a fallu qu'on attende si longtemps pour ça. Quand on achète un téléphone, il nous appartient, là. Donc, pourquoi est-ce que les fournisseurs le bloqueraient pour nous empêcher d'aller voir un concurrent? C'est aberrant. Et ça va être bien parce que les gens qui vont à l'étranger vont pouvoir acheter une carte SIM dans le pays où ils sont, donc d'un fournisseur local, et utiliser ces services-là. Ça va leur coûter beaucoup moins cher que d'avoir des frais d'itinérance de leur fournisseur canadien. Parce qu'on sait que ça peut coûter une fortune là, quand on est à l'étranger. Donc ça, c'est bien. Puis on va pouvoir aussi magasiner plus facilement, changer de fournisseur tout en gardant notre appareil. Mais ça va être plus simple parce que le téléphone ne sera pas bloqué.
Ouais. J'ai hâte de voir si les fournisseurs vont ajuster, par exemple, le prix de leurs appareils en fonction de ça. Ça reste à voir là encore, là, comme c'est tout nouveau.
Oui, tout nouveau, tout beau.
Ouais. Hydro-Québec lâche les cartes de crédit, une bonne chose.
Oui, ben ça avait jamais vraiment été mis en place, mais ils avaient à un moment donné considéré de permettre aux utilisateurs, à leurs clients, de payer de manière indirecte, mais avec leur carte de crédit. C'était comme une fausse bonne nouvelle, parce que les gens disaient, ah oui, ça serait bien de payer avec la carte de crédit pour avoir des points, mais finalement, c'est que ce système-là aurait eu des frais. Donc, les points, ça n'aurait pas servi à grand-chose si on paye 2-3% de frais à chaque fois. ça donne rien. Puis honnêtement, c'est épouvantable parce qu'il y a des gens qui auraient été tentés de mettre ça sur leur carte de crédit, les gens plus vulnérables, encore une fois, qui n'ont pas d'argent pour payer leur électricité.
Écoute, tu mets déjà ton épicerie sur ta carte de crédit des fois. Rajoute ça, rajoute autres dépenses.
Non, c'est t'enfonces, là. C'est du 20 puis du 30% d'intérêt.
Ouais, exactement.
C'est beaucoup mieux de dire, bon, j'ai des problèmes financiers, j'appelle Hydro-Québec, il y a toutes sortes d'ententes de paiement qui peuvent être prises. Et les gens qui ont les moyens, là, puis qui veulent que ça soit simple de payer leur compte, il y a toutes sortes de moyens électroniques, là, à part la carte de crédit, pour payer ses comptes d'Hydro. Donc, je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, et c'est tant mieux qu'il ait fait marche arrière.
Ouais. Et comme tu nous l'expliques si bien, Stéphanie, c'est important de s'occuper de nos affaires, de s'intéresser à nos affaires, c'est-à-dire, mais il faut savoir comment faire. Alors, toi, tu applaudis au retour du cours d'éducation financière en secondaire 5, et ça, obligatoire.
Ben oui, non seulement j'ai applaudi, mais j'ai même participé à la rédaction du livre.
Bravo!
Qui est utilisé dans les classes maintenant. Donc, j'espère que ça va faire des consommateurs mieux outillés dans quelques années.
C'est vrai. Merci beaucoup, Stéphanie.
Ben, ça m'a fait plaisir.
À une prochaine. Stéphanie Gramont est chroniqueuse spécialisée en consommation, finances personnelles et investissement au journal La Presse.